Je ne sais pas si vous avez le souvenir d'un vœu que vous avez fait à Dieu et que vous avez dû assumer jusqu'au bout. Alors là, je ne parle pas des paris stupides qu'on peut faire sur des coups de tête. Hein. J'ai un ami pasteur qui un jour s'est présenté à un mariage tout rasé, mais à blanc, hein, comme se le faut. À part qu'il avait des cheveux juste avant, hein. Une heure avant le mariage, il avait ses amis. Et il avait fait un pari stupide avec le marié. C'est le jour où tu te maries, je me tonds les cheveux. Il avait sorti ça quelques années auparavant, et le jour est arrivé, eh bien, il s'est tondu la tête le jour du mariage. Voilà. Je ne parle pas de ce genre de vœux qui paraît peut-être un peu stupide, ou ceux que j'ai déjà fait avant même d'être chrétien. Après un lendemain de fête bien arrosé, oh, plus jamais je boirai une goutte d'alcool. Le genre de vœu qui tient au moins 24 heures. Et encore. Il y a des vœux comme ça qu'on fait. Là, je ne parle pas de ce genre de vœux. Hein, je parle plutôt d'un engagement solennel. Est-ce que vous avez un souvenir comme ça? Vous dites, ok, je m'engage devant toi, Seigneur. Alors, bien sûr, tous ceux qui sont mariés, on fait un engagement solennel et j'espère qu'ils en assument le choix. D'accord ? Donc ça fait partie des engagements solennels. Dans l'histoire du christianisme, il y a eu de nombreuses personnes qui se sont engagées devant Dieu, qui ont fait des vœux, parfois dans des situations extrêmes, et qui les ont assumés jusqu'au bout. Et ici, je parle en particulier d'un... Ah. Il y a déjà plus de piles. Ça fait comme la semaine dernière. Voilà. Si vous pouvez venir les chercher, c'est... Ouais, il y a un petit souci avec notre télécommande. Sinon, j'ai ma télécommande dans mon sac. Désolé. En fait, vous connaissez Martin Luther. Martin Luther, il était étudiant en droit. Et un jour, il était, je ne sais pas s'il était en train de voyager ou s'il était dehors, en tout cas dans la campagne, et un terrible orage tombe, et si fort que les éclairs devaient frapper juste à côté de lui, et il a eu si peur qu'il s'est adressé à Sainte-Anne. À l'époque, il était catholique. Et donc, il lui a dit « Sauve-moi, et si tu me sauves, je deviendrai moine. Hein » J'ai déjà fait ce pari stupide dans une boîte de nuit un jour. Je ne suis pas moine. Lui non plus. Dieu a écouté cet homme parce qu'il y avait une sincérité quelque part. Et figurez-vous qu'il a été fidèle à sa promesse parce que quelques jours plus tard, mais quand je dis quelques jours, ce n'est même pas une semaine, il a rejoint le couvent, eh oui, des moines augustins. Et là, figurez-vous que dans ce monastère, il a étudié la Bible. Et en étudiant la Bible, il a découvert l'Épître aux Romains. Et en découvrant l'Épître aux Romains, il a découvert le salut et la justification par la grâce seule. Lui qui il voulait à tout prix plaire à Dieu par ses œuvres, il ne savait pas comment faire. Il découvre que le salut est offert par le moyen de la grâce et ça a changé le monde. Mes amis, en assumant son vœu, Martin Luther va voir sa vie personnelle transformée, mais aussi l'histoire du christianisme. Et sans cet engagement assumé de Luther, ben mes amis, il n'y aurait pas eu Calvin. Sans Calvin, il n'y aurait pas eu de réforme à Genève. Sans réforme à Genève, il n'y aurait pas eu de Calvin Tour, ni John Glass à Genève. Sans John Glass et Meg, il n'y aurait pas eu Léger, et je ne serais pas là ce matin. Ni vous. C'est QFD. Autrement dit, si nous sommes rassemblés ici ce matin, c'est grâce à un homme qui a assumé son engagement jusqu'au bout. Alors certes, c'était devant Sainte-Anne, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est que Dieu a transformé ça jusqu'au moment où il s'est engagé à servir le Seigneur et il a souffert un petit peu. Hein. Martin Luther a été aussi persécuté. Et donc ce matin, au travers d'un épisode de la vie de l'apôtre Paul, on va découvrir trois manières d'assumer ses choix devant Dieu. Trois manières d'assumer ses choix devant Dieu. Et si vous ne l'avez pas lu cette semaine, eh ben je vous invite à le lire maintenant. Quelques versets, cinq versets dans le livre des Actes. On est au chapitre 18. C'est le 45e épisode de notre série. Donc, vous voyez, on avance doucement. On est qu'au chapitre 18. Mais là, je me suis dit, ah, il faut faire une pause. On a un épisode. Franchement, c'est assez cocasse. Et puis, quand j'ai su que c'était Solofo qui faisait la présidence, je me suis dit, oh non, c'est trop beau. Vous allez comprendre pourquoi. Je pense que vous l'avez déjà compris, mais Paul demeura là encore assez longtemps. Ensuite, il prit congé des frères et s'embarqua pour la Syrie avec Priscille et Aquilas. Il s'était fait raser la tête à Sancré, car il avait fait un vœu. Ils arrivèrent à Éphèse et Paul y laissa ses compagnons. Il entra dans la synagogue et s'entretint avec les Juifs, qui lui demandèrent de rester quelque temps. Mais il n'y consentit pas et prit congé d'eux en disant « Il faut absolument que je célèbre la fête prochaine à Jérusalem. Je reviendrai vers vous si Dieu le veut. » D'Éphèse, il fit voile pour débarquer à Césarée. Il monta saluer l'Église, puis il descendit à Antioche. Fin de la lecture de la parole de Dieu. Ici, ça fait suite au séjour que Paul va passer à Corinthe. Un séjour qui est douloureux, laborieux pour l'apôtre Paul, parce qu'on le voit un peu dans un état de fragilité. Paul est probablement, on va dire, passe par une petite dépression passagère. En tout cas, il est découragé, il se sent faible et il a certaines craintes. C'est ce qu'on lit, en fait, quand il écrit plus tard aux Corinthiens, « Voilà dans quel état j'étais lorsque j'étais parmi vous. » Il dit, « Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. » Et donc, comme il est découragé, Dieu est au courant. Et Dieu va veiller sur son serviteur pour le remettre sur les rails quelque part, le rebooster. Chose que tout le monde vit à un moment donné dans sa vie. Et quand on connaît le Seigneur, eh bien, on va expérimenter des choses fortes avec lui. Et c'est ce qui va se passer. Et si vous vous souvenez, bien sûr, tout le monde s'en souvient, les 4 points que j'avais soulevés dans le 44e épisode, donc la semaine dernière, j'avais dit que Dieu avait relevé l'apôtre Paul de 4 manières. En lui envoyant de nouveaux collaborateurs, hein, on voit que Aquilas et Priscille débarquent à Corinthe et il va se lier d'amitié avec ce couple et ils vont vraiment faire avancer le royaume de Dieu ensemble. Ensuite, il va lui accorder de nouveaux fruits, c'est-à-dire des conversions. Le chef de la synagogue va se convertir, lui et aussi toute sa famille, et puis d'autres qui vont se convertir parmi les Juifs et probablement aussi les Romains et les Grecs. Mais ce n'est pas seulement ça. Il va lui aussi lui donner une nouvelle perspective en lui donnant une vision. Alors, une chose extraordinaire, miraculeuse, mais c'est quelque chose qui va être rassurant pour lui et qui va l'encourager à rester à Corinthe parce qu'il avait qu'une envie, c'était de partir à cause du climat, à cause du rejet de certains juifs, mais aussi à cause des ténèbres qui régnaient dans cette ville. Et on avait parlé de ces 1000 prostituées sacrées, donc qui descendaient, des prêtresses qui descendaient en ville offrir leur service aux touristes et aussi aux gens de la ville de Corinthe. Donc un climat qui franchement décourageait Paul, le dégoûtait probablement et qui l'aurait entraîné loin de Corinthe. Et là, dans cette vision, il lui dit « N'aie pas peur, ne crains pas. J'ai de nombreuses personnes à sauver encore, nombreuses personnes à sauver ici dans cette ville. » Et là, ding, 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 quand vous dites à un évangéliste « T'inquiète, il y a d'autres gens qui vont être sauvés », alors là, ça frétille dans tous les sens. Et l'apôtre Paul était évangéliste et il s'est dit « Ah, c'était une des choses les plus encourageantes ». Et dans cette vision, il va aussi lui faire une promesse qu'il serait protégé. Et c'est le quatrième élément que j'ai relevé, c'est que Dieu va manifester de nouveau sa fidélité à l'égard de Paul dans cette situation précise. Il va le protéger. Paul va être embarqué, il va avoir un procès, il n'aura même pas besoin d'ouvrir la bouche. Quelqu'un, le chef de la synagogue, le nouveau chef de la synagogue, parce que l'autre s'était fait virer parce qu'il s'était converti, alors le nouveau chef de la synagogue va présenter le projet. On ne sait pas comment il le présente, parce que les coups, Paul ne les prendra pas, mais lui va les prendre à sa place. Et probablement que c'est ce Sosthène qui s'est converti qu'on retrouve dans l'Épître aux Corinthiens. Il y a son nom qui est mentionné. Sosthène. Et là, on se dit waouh, waouh. Donc, quatre choses que Dieu va faire pour relever son serviteur. Voilà un petit peu le contexte qui précède notre texte. Et donc, le verset 18, qui est ici, est un peu une sorte de transition qui marque la fin de son premier séjour à Corinthe, où il demeura encore assez longtemps. Quand il dit assez longtemps, c'est pas un mois ou deux mois, il est resté un an et six mois. Et ça, c'est le verset 11 qui nous le dit, hein. C'est précis. Un an et six mois, il va rester. C'est la plus longue période de sédentarité de l'apôtre Paul depuis le début des Actes. Depuis que l'apôtre Paul a été envoyé en acte 15 par l'église de Jérusalem pour répandre un message, notamment une lettre que les apôtres avaient écrite pour justifier le salut par la grâce et donner des consignes à des églises. Depuis ce jour-là, l'apôtre Paul a œuvré, a annoncé l'évangile dans des villes, mais il est resté quelques semaines, parfois quelques mois, et ici il y reste un an et demi, 18 mois dans cette ville. Et donc il prend congé. Ensuite, il prit congé des frères et s'embarqua pour la Syrie avec Priscille et Aquilas. Alors, sa vision, ce n'était pas d'aller en Syrie, mais il avait un objectif plus lointain. Et donc, c'était Jérusalem. Il voulait absolument aller à Jérusalem. On l'a lu tout à l'heure, mais on reviendra là-dessus. Juste avant de prendre le bateau, donc il est dans le port de Sancré, hein, c'est un petit peu attaché à la ville de Corinthe. Donc vous imaginez une ville à part entière, mais c'est la ville, un petit peu comme le vieux port de Marseille. Donc c'est un peu à part le vieux port. Voilà, il y a le port, c'est le port. Vous voyez, c'est connu. Tout le monde vient là pour le marchandage, pour aller acheter le poisson. C'est comme ça. Et donc il arrive ici et qu'est-ce qu'il fait ? Quelque chose de vraiment bizarre. Et je parle de Marseille parce que je pense à toi, c'est le faux. Paul se fait raser la tête à Sancré car il avait fait un vœu. Et là, si vous n'avez jamais lu la Bible, vous dites, mais qu'est-ce qu'il nous fait l'apôtre Paul ? Et là, je te pose la question, est-ce que tu as fait un vœu ce matin en te levant, Solofo ? Non, Solofo n'a pas fait de vœu ce matin. J'en ai vu un autre dans la salle. Et il fait ça là, je le vois. Michael, tu as fait un vœu ce matin ? Pas vraiment, hein ? En fait, c'était un moyen pour savoir que quelqu'un venait de faire le vœu, c'est quand il était chauve. Ça, c'est au moment où on fait le vœu. Mais après, dans la Bible, on voit un vœu, parce que là, il fait un vœu et il se fait raser la tête. Alors comme ça, ça paraît bizarre. On fait un vœu. Alors si on devait à chaque fois faire un vœu, se raser la tête, vous imaginez, le 1er janvier, on serait tous chauves. Tout le monde a pris des bonnes résolutions, on a fait des vœux. On est tous chauves en arrivant à l'église. Vous ne le faites pas parce que vous n'avez pas l'Ancien Testament comme règle. Mais Paul était en train de négocier quelque part la nouvelle alliance. Et donc, il y avait encore certaines pratiques qu'il faisait et qui étaient liées à l'ancienne alliance. Est-ce que vous connaissez le vœu de Naziréa ? Parce que le vœu de Naziréa, c'est dans la Bible et c'est réglementé, légiféré par Dieu lui-même. On trouve cette pratique du Naziréa dans Nombre, chapitre 6, verset 2 à 20, je crois. On va le lire, mais en attendant, c'était un vœu qu'on faisait pour des raisons précises. Les Juifs faisaient un vœu de Naziréat en signe de gratitude envers Dieu pour une bénédiction ou une délivrance accordée. D'accord ? Donc c'était quelque chose qui avait lieu après. Donc vous voyez, quand on dit un vœu, on se dit « Tiens, ça va être pour quelque chose, quelque part. » Eh bien là, non. On faisait un Dieu en remerciement. On remerciait Dieu et donc on se faisait raser la tête. Est-ce que Paul avait des raisons de se raser la tête, de remercier Dieu ? J'ai donné 4 bonnes raisons, n'est-ce pas ? Il me semble que c'est assez énorme ce que Dieu a fait dans sa vie pour le relever. Et donc oui, bien sûr que Paul avait de très bonnes raisons de se raser la tête à ce moment-là. Et donc, celui qui faisait un vœu de Nazirin, il obéissait à la loi. Alors, on va le lire et on verra, est-ce que Paul il a respecté tout ça ? Regardez ce que dit Nombre chapitre 6. « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, lorsqu'un homme ou une femme se séparera des autres en faisant vœu de Naziréat pour se consacrer à l'Éternel, il s'abstiendra de vin et de boisson enivrante. Il ne boira ni vinaigre fait avec du vin, ni vinaigre fait avec une boisson enivrante. Il ne boira d'aucune liqueur tirée des raisins et il ne mangera point de raisins frais ni de raisins secs. » J'ai surligné ici l'objectif du vœu de celui qui faisait justement un vœu devant Dieu. C'est quoi l'objectif ? Se consacrer à l'Éternel. C'est ça l'objectif de ce vœu-là. Se consacrer à l'Éternel. Ce n'était pas pour obtenir quelque chose de Dieu. Autrement dit, une méthode pour tordre le bras de Dieu. Vous voyez ? Et il y a des chrétiens qui utilisent leur piété dans ce but-là. Et bien entendu, dans toutes les religions, on fait des choses pour attirer les mérites de Dieu quelque part. Le vœu de Naziréat, le fait de se raser la tête, de s'abstenir de certains aliments et de certaines boissons, ce n'était pas pour obtenir quelque chose de Dieu, mais pour se consacrer à l'Éternel. Et vous savez quoi ? Toutes les pratiques où il y a une forme d'abstinence, d'ascétisme dans la Bible, c'est pour la même chose. Si vous jeûnez, mes amis, pour obtenir quelque chose de Dieu, vous êtes à côté de la plaque. Le jeûne n'a jamais été demandé pour obtenir quelque chose de Dieu, mais pour se replacer, se recentrer sur l'essentiel, sur Jésus. En ce qui nous concerne. Le jeûne, c'est pour se consacrer à l'Éternel, pour se recentrer sur l'essentiel. J'y reviendrai dans quelques instants. En tout cas, ça n'a jamais été d'obtenir quelque chose de Dieu, mais de consacrer du temps à notre Seigneur, de remplacer le temps d'un repas par la méditation ou la prière. Et c'est un temps défini. On s'engage sur une durée. Celui qui faisait le vœu de Naziréat s'engageait sur une période en général d'un mois. Donc vous voyez, ce n'est pas sur toute la vie. Alors il y a des exceptions dans la Bible, et vous les connaissez. Là, on n'a pas tout lu, hein, mais il y a quand même des exceptions. Vous en connaissez moins une dans le Nouveau Testament ? Dans le Nouveau Testament, oui, alors oui, tu as raison, dans l'Ancien. Dans le Nouveau Testament, qui c'est qui avait... Alors Jésus, pas vraiment, parce qu'il buvait de l'alcool. Hein. Il a même transformé 600 litres d'eau en vin. Donc je pense qu'il n'avait pas le vœu de Naziréat. Ou en tout cas, il n'a pas été consacré dans cet objectif-là. Quel est l'autre qui lui ressemble un peu, qui a préparé le terrain ? Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Et dans l'Ancien Testament, on a 2 autres personnages. C'est Samson. Hein ? Et comment se manifestait Samson ? À quoi ? Si je vous dis Samson, vous pensez à quoi ? À enlever les gros muscles, cheveux longs. Parce que en fait, on se rasait la tête, mais après, il fallait plus les toucher les cheveux. Et c'est pour ça que quand je vois Solofo, je me dis tiens, il vient de faire son vœu. Mais normalement, s'il a fait un vœu, dans 6 mois, il a des cheveux comme cet homme. D'accord ? Ça, c'était le vœu de Naziréat. Et donc, Samuel également, et ils ont été consacrés à leur naissance. Jean-Baptiste également. D'accord ? En tout cas, Samson et Samuel dans l'Ancienne Alliance, c'est clairement le vœu de Naziréat qui est pour eux. Jean-Baptiste, ce n'est pas dit textuellement, mais en fait, on peut lui associer aussi donc, ce vœu de Naziréat à la naissance. Alors, lorsqu'on arrivait au terme des 30 jours... Donc on avait accompli notre vœu, eh bien on devait aller au temple et on ne devait pas se limiter à ne pas manger du vin à boire du vin ou même à manger du raisin, vous l'avez vu, mais après il fallait faire toutes sortes de rituels, de sacrifices. Et regardez bien parce que c'est assez codifié. Alors vous n'allez pas le voir parce que je ne l'ai pas mis, c'est long. Je vais vous le lire, si vous voulez prendre, c'est dans Nombre chapitre 6. On saute quelques versets et on arrive au verset 13, où il va donner toutes sortes de consignes. Donc Nombre 6, verset 13, « Voici la loi du Naziréen. Le jour où il aura accompli le temps de son Naziréat, on le fera venir à l'entrée de la tente d'assignation. Il présentera son offrande à l'Éternel, un agneau d'un an et sans défaut pour l'Holocauste, une brebis d'un an et sans défaut pour le sacrifice d'expiation et un bélier sans défaut pour le sacrifice d'action de grâce. » Trois animaux. Une corbeille de pain sans levain, de gâteaux de fleurs de farine pétrie à l'huile et de galettes sans levain arrosées d'huile avec l'offrande et la libation ordinaire. Là, c'était du vin. Le sacrificateur présentera ces choses devant l'Éternel et il offrira sa victime expiatoire et son holocauste. Il offrira le bélier en sacrifice d'action de grâce à l'Éternel, outre la corbeille de pain sans levain, avec l'offrande et la libation. Le Naziréen rasera à l'entrée de la tente d'assignation sa tête consacrée. Donc les cheveux avaient repoussé entre-temps et donc il se rase de nouveau la tête et regardez ce qu'il doit faire. Il prendra les cheveux de sa tête consacrée et il les mettra sur le feu qui est sous le sacrifice d'action de grâce. Le sacrificateur prendra l'épaule cuite du bélier, un gâteau sans levain de la corbeille et une galette sans levain et il les posera sur les mains du Naziréen après qu'il aura rasé sa tête consacrée. Le sacrificateur les agitera de côté et d'autre devant l'Éternel. C'est une chose sainte qui appartient au sacrificateur avec la poitrine agitée et l'épaule offerte par élévation. Ensuite, le Naziréen pourra boire du vin. Telle est la loi pour celui qui fait vœu de Naziréat. Telle est son offrande à l'Éternel pour son Naziréat, outre ce que lui permettront ses ressources. Il accomplira ce qui est ordonné pour le vœu qu'il a fait selon la loi de son Naziréat. Waouh ! Il y a des choses à faire. C'est pas simplement je me prive de boire juste du vin et de manger du raisin, mais il y a énormément d'autres choses, vous voyez, pour accomplir son vœu jusqu'au bout. Est-ce que c'était la raison pour laquelle Paul voulait absolument se rendre à Jérusalem ? On ne sait pas. Est-ce qu'il voulait s'acquitter de son vœu devant Dieu ? Donc, faire tout ce que je viens de lire pour justement accomplir ce vœu. Alors le texte ne le dit pas, et c'est probablement normal. Parce que, et là ce sont des commentaires, mais j'arrive aussi à cette conclusion, c'est que Paul a peut-être fait le début de ce vœu de Naziréat, mais il n'en a fait qu'une partie en fait. Il a accompli partiellement ce vœu. Pourquoi il fait ça ? Eh bien, parce qu'il sait que les rituels, en fait, tout ce qui est rituel, Jésus-Christ est venu l'accomplir une fois pour toutes à la croix. D'accord ? Donc, tout ce qui touche à la notion cultuelle, c'est-à-dire des actes pieux que devaient faire les Juifs pour honorer Dieu, eh bien, tout ça, ça a été légiféré. Le pardon des péchés, Christ est mort pour ça. Toutes les autres personnes, les offrandes, tout ce qu'on pouvait faire dans l'ancienne alliance, Jésus vient l'accomplir. Donc c'était des choses qui étaient dans l'ombre et aujourd'hui Jésus va les éclairer. Jésus est l'accomplissement de toutes ces choses en fait qui étaient horribles. Hein, devoir sacrifier un animal, c'était nous rappeler notre péché et l'horreur du péché parce que le sang devait couler, on devait faire souffrir un animal. Alors, je ne sais pas si le mot souffrir est bon, mais il devait mourir. Il devait donner sa vie pour expier le péché. Et là, Christ va tout accomplir. Et pour Paul, il n'y a absolument aucune confusion. Depuis le livre des Actes au chapitre 15, Paul va défendre bec et ongles la doctrine du salut par la grâce, par le moyen de la foi, sans les œuvres. Mais c'est truffé dans toutes les épîtres du Nouveau Testament, toutes les épîtres où il a donné des lettres, soit des serviteurs de Dieu, soit des églises, il rappelle l'évangile et le salut par la grâce. Il n'y en a pas une seule où ce n'est pas mentionné. Donc s'il y a une chose où Paul ne s'est absolument jamais remis en question, où il n'est pas revenu en arrière, c'est bien sur cette doctrine-là. Donc on va écarter d'emblée le fait que Paul a accompli les rites de l'ancienne alliance encore dans le temple. On peut aller dans le temple sans faire des sacrifices. D'accord ? Vous avez déjà invité à un mariage catholique ou à un enterrement ? À un moment donné, le prêtre distribue l'Eucharistie. Moi, je suis dans la salle, je ne la prends pas. C'est mon choix. Ok ? Je ne la prends pas. Je suis présent, je suis dans l'Église catholique, mais je ne participe pas jusqu'au bout. Je suis là comme témoin, j'écoute, je m'associe aux mariés, si c'est des mariés, ou à la famille en deuil, si c'est le cas. Mais je ne fais pas tous les rituels. On est un petit peu dans ce cas de figure ici avec l'apôtre Paul. C'est qu'il est présent dans le temple, il est avec ses frères, mais il ne va pas forcément appliquer jusqu'au bout ce vœu de Nazira. Je veux que ce soit très clair, parce que si vous pensez qu'il a fait jusqu'au bout, déjà, je pense que Luc l'aurait mentionné. Luc, il est dans les détails. Si Luc ne dit rien, soit il ne sait pas, soit que ce n'est pas important. Vous voyez ? Donc, on ne peut pas vraiment répondre à cette question. C'est spéculatif. Pourquoi Paul pratique au moins le début de ce rite alors que ça n'a plus de valeur spirituelle ? On est d'accord. Alors j'ai trouvé deux bonnes raisons. Et ça, ce sont des éléments que vous pouvez prendre pour vous parce que il me semble que vous avez et vous allez rencontrer des gens parfois qui pratiquent des choses, ça vous fait bizarre. La première raison, c'est parce que Paul était encore attaché à sa culture juive. D'accord ? Et il faut reconnaître que lorsqu'on a pratiqué des choses pendant des décennies, il nous est difficile de nous en défaire. Vous savez, depuis peu de temps, ça fait depuis le mois de février, c'était février l'année dernière, donc ça fait juste un an, j'ai découvert que j'avais une maladie au foie. Depuis ce jour-là, je ne peux plus manger de sucre, pas plus manger, mais je dois vraiment limiter au maximum tout ce qui est apport sucre et graisse animale. Donc le sucre se trouve dans les confitures, il se trouve dans le pain blanc, n'est-ce pas ? Et puis les graisses animales se trouvent dans le beurre. Petit déjeuner de Franck pendant 53 ans, pain, beurre, confiture. Mes amis, qu'est-ce que c'est difficile de se passer de son pain, de son beurre et de sa confiture. Et qu'est-ce que je suis content, une fois tous les 6 mois, de pouvoir remanger. Je me fais un petit plaisir comme ça. Mais sinon, maintenant, c'est des œufs le matin, c'est des céréales, c'est des choses différentes. Mais c'est compliqué. Au début, c'était très compliqué. Oui. Eh bien, je me demande si on n'est pas un peu dans ce cas de figure ici, avec Paul. Pendant des décennies, l'apôtre Paul, on lui a inculqué les valeurs de la loi, les rituels de la loi judaïque. Et il y était attaché. Paul, il dit, mais la loi, elle est parfaite, elle est sainte, elle est juste, elle est bonne. Romains chapitre 7, verset 12, verset 14. On voit cet attachement qu'il a à la loi, l'apôtre Paul. Donc, il est proche du judaïsme, et on va voir, quand je vous dis qu'il est proche, c'est plus que proche. Il est amoureux, il est passionné par son peuple. En fait, depuis sa tendre enfance, l'apôtre Paul, on lui a enseigné, et l'apôtre Paul, c'était pas n'importe qui, c'est qu'il surpassait tout le monde dans ce domaine-là. Dans la mise en pratique, il était irréprochable, nous dit Philippiens. Je vous lis ici, alors je crois que je l'ai mis là. Voilà, c'est juste ici. Moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël. Vous voyez, depuis le début, depuis sa tendre enfance, il a été circoncis de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, donc fier de son patrimoine. Quant à la loi, pharisien, pas plus rigoureux que ça. Tu peux pas trouver plus. Quant au zèle, persécuteur de l'Église, il défendait vraiment la Torah. Irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Irréprochable. Donc l'apôtre Paul, depuis sa tendre enfance, il mettait tout en pratique. Vous voyez, il baignait là-dedans. C'était vraiment, il avait le judaïsme jusqu'au bout de ses ongles. Ça pénétrait son âme, ses os, tout sentait le judaïsme. Regardez ce qu'il dit au verset 13 dans l'épître aux Galates. Vous avez en effet entendu parler de ma conduite autrefois. Alors ça, c'est avant sa conversion. Autrefois, dans le judaïsme, je persécutais alors à outrance l'Église de Dieu et je la ravageais. Dans le judaïsme, je surpassais beaucoup de ceux de mon âge et de ma race. il les surpassait. Il n'y avait pas mieux. J'avais un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Donc vous voyez, on n'a pas affaire à un gars qui irait à la messe une fois par mois ou une fois par an. Non, lui, il était au temple tous les jours. Il était rabbin en plus, mais depuis sa tendre enfance. Donc vous imaginez, il faut se mettre dans son bain à lui. C'est imprégné de cette culture juive qu'il est. Vous savez, j'ai un ami missionnaire qui était musulman et il est converti depuis plus de 30 ans. Et récemment, on a mangé ensemble et puis il y avait du porc à ce moment-là à table et il n'a pas mangé. Alors je lui ai posé la question, je lui ai dit « Mais pourquoi tu ne manges pas de porc ?» Et vous savez ce qu'il m'a dit ? Ben, il m'a dit « Il est difficile pour moi de manger quelque chose librement alors que toute ma vie, on m'a dit que c'était mauvais. » Et ça fait 30 ans qu'il est chrétien. Alors, il n'empêche pas les autres de manger du porc. D'accord ? Mais lui, il a vraiment du mal encore. Faire rentrer quelque chose où on m'a dit « C'est pas bon, c'est... Hein ?» C'est dans ses viscères, quelque part. Il a du mal avec ça. Et pourtant, il est chrétien. Il est missionnaire. Donc, vous voyez, alors il y a une autre raison, mais c'est ce qui m'amène à ce deuxième point. C'est parce que Paul était... Pardon. Parce que Paul aimait les Juifs et voulait les gagner à l'Évangile. Ça, c'est une autre des raisons pour lesquelles Paul a peut-être pratiqué ce vœu de Naziréa. C'est mon ami qui mangeait pas de porc, il m'a aussi dit que c'était pour, lorsqu'il était avec des amis musulmans, qu'il puisse leur dire « Moi non plus, je ne mange pas de porc. » C'est-à-dire, je ne rejette pas ta culture. Je ne rejette pas ma culture, d'où je suis venu. Moi non plus, je ne mange pas de porc. T'inquiète pas, vous voyez. Quelque part, il gagne de la crédibilité vis-à-vis des musulmans, le fait de ne pas en manger. Donc, il se prive de quelque chose, volontairement. Alors, il y a un côté involontaire, hein, parce que franchement, il n'a pas envie d'en manger, mais en plus, il le fait pour témoigner. Et ça, c'est le motif, quelque part, le plus important. Là, j'ai mis une photo, les amis. Est-ce qu'il y a des choses qu'on ne doit pas faire avec les Suisses ? Il y a une chose qu'un Français tombe dans le panneau, c'est que quand les Français parlent de gruyère, en fait, ils parlent d'emmental. Vous voyez où je veux en venir ? Et donc, un Français peut très bien dire qu'il y a du trou dans le gruyère. Ah ! Blasphème ! C'est un blasphème pour vous. Je le sais, j'ai failli me faire lapider pendant un culte. En fait... Dire à un Suisse qu'il y a des trous dans le gruyère, c'est comme dire qu'on mange du porc, quelque part. C'est blasphématoire. On ne fait pas ça. Tu touches pas à ma culture. Si on veut gagner les Suisses, mes amis, on ne va pas critiquer leur fromage, ni leur chocolat, d'accord ? Ni les montres, ni les couteaux, oui, ni les banques. Il y a quand même des choses, il y a des valeurs en Suisse à laquelle on est attaché. Et donc, si on veut gagner les Suisses, on ne va pas les critiquer ou faire exactement l'opposé. Vous voyez ? Et je pense que là, Paul, il voulait gagner les Juifs. Et donc, il se fait tout à tous. C'est le texte qu'on lit dans 1 Corinthiens chapitre 9. « Car bien que je sois libre, il est libre. » Paul est libre, les amis. Il s'ajoute une contrainte, mais il est libre. « Bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme les Suisses. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi. Et pourtant, je ne suis pas moi-même sous la loi afin de gagner ceux qui sont sous la loi. » Donc il va se mettre des restrictions et il va appliquer quelque part des choses, sachant que la valeur spirituelle, elle n'est plus là, vous voyez ? Mais il va les faire. Ça veut dire que l'apôtre Paul a probablement été, quand il était avec des juifs, il faisait les ablutions. Il se lavait les mains rituellement pour pas choquer ses frères. Il n'aurait pas mangé de porc non plus en présence des Juifs. Vous voyez ? Il s'adapte. Et c'est quoi son objectif à l'apôtre Paul ? C'est clair, là. Afin de gagner le plus grand nombre. Il veut gagner des Juifs, donc il se fait juif avec eux. Paul agit avec liberté, même s'il respecte encore certaines traditions. Est-ce que c'est clair pour vous maintenant, ce vœu de Naziréat ? Donc, ne venez pas raser la semaine prochaine. Et si vous le faites, n'allez pas jusqu'au bout. N'allez pas jusqu'au bout. De toute façon, le temple, vous ne pouvez plus faire de sacrifice au temple. Depuis 70, c'est plus possible. Depuis l'an 70, hein, ça fait bientôt 2000 ans que c'est plus possible de faire des sacrifices dans le temple. Donc, ça n'aurait aucune utilité pour nous, on est d'accord. Mais pour Paul, à cette période-là, à ce moment donné de l'histoire, c'était utile. D'accord ? Capito ? C'est clarifié ? On ne revient plus là-dessus ? Ok. Ceux qui iront dans les groupes de maison, vous allez en rediscuter. Deuxième choix assumé par l'apôtre Paul, c'est un choix spirituel. On a vu un choix culturel, et là, il va faire un choix spirituel. Pourquoi je dis spirituel ? Eh bien, on voit au verset 19, « Ils arrivèrent à Éphèse, et Paul y laissa ses compagnons, il entra dans la synagogue et s'entretint avec les Juifs. » Ces deux versets-là prouvent que Paul n'a pas changé son fusil d'épaule, qu'il n'est pas retombé dans une forme de légalisme judaïsant. Et pourquoi je dis cela ? Ben parce que Paul ne perd pas de vue sa vocation, son appel qu'il a reçu le jour de sa conversion. Il fait quoi ? Il va dans les synagogues. Il fait exactement ce qu'il a toujours fait lorsqu'il pénètre dans une ville. Donc ce n'est pas parce qu'il a fait ce vœu de Naziréat qu'il abandonne quelque part, qu'il met de côté sa vocation. On peut faire les deux. Et c'est ce qu'il fait ici. Et il avait reçu cette vocation, l'apôtre Paul, dès sa conversion, par la bouche d'Ananias. Regardez ce qu'il dit au sujet de Paul. « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. » Donc on dit que l'apôtre Paul, c'est l'apôtre des païens, mais on voit que sa mission est plus large. Ici, c'est « Oui, tu vas aller vers les nations, devant les rois, donc devant les autorités, devant les gouverneurs, devant les empereurs. » Paul va se retrouver devant ces personnages et également devant Israël. Les fils d'Israël, ce sont les Juifs. D'accord ? Donc il va vraiment balayer tout le spectre qu'on pouvait avoir à l'époque. Mais il n'occulte pas les Israélites et ils sont même toujours prioritaires. Si vous vous souvenez, dans 1 Corinthiens, c'est Romains 1, 17, il dit « du Juif premièrement, puis du Grec ». Le salut est pour tous, du juif premièrement et du grec. Vous voyez, parce que c'est le peuple élu, parce qu'il veut d'abord aller voir chez les juifs, est-ce que vous allez reconnaître ce Messie ? Vous n'en voulez pas ? Eh bien, je me tourne maintenant vers les païens. Et il fait toujours ça. Donc, il n'a jamais abandonné sa vocation. Et c'est cette affirmation que je dis ici, nos engagements culturels ne doivent pas empiéter sur notre engagement spirituel et notre vocation de faire des disciples. Mes amis, nos pratiques culturelles, doivent servir la cause spirituelle, doivent servir l'Évangile et non la desservir. Elles doivent favoriser l'expansion du royaume et non la limiter. Tout ce qu'on fait ici dans l'Église, c'est imparfait. Il n'y a rien de parfait. Solofo l'a relevé ce matin, mes prédications sont imparfaites, les chants sont imparfaits. Notre manière de jouer est imparfaite, notre manière d'accueillir est imparfaite. Nous sommes imparfaits. Ça, il faut que ce soit clair pour tous. D'accord ? Mais du coup, on va quand même avoir des règles. Et ceux qui veulent devenir membres, actuellement, ils sont en train de lire les règlements intérieurs. Il y a des éléments, dans une famille, on a des règles. Il n'y a aucune famille parfaite. Notre Église n'en fait pas exception. Mais c'est des règles qu'on a établies. Et ces règles, elles ne doivent absolument pas nous priver d'annoncer l'Évangile ou de faire des disciples mais au contraire, elles doivent favoriser le fait de faire des disciples. S'il y a des règles, s'il y a des activités, s'il y a des traditions qui sont installées dans l'Église et qui privent ou qui nous empêchent, qui freinent l'avancée de l'Évangile, qui nous empêchent de faire des disciples, alors les amis, il faut les enlever. Ça doit être clair. C'est pour ça que des règlements intérieurs, c'est appelé à bouger. Ce n'est pas figé dans le marbre. On peut bouger nos traditions. Parce qu'à un moment donné, une tradition, elle est valable pour lutter pour un besoin, pour lutter contre la société dans une manifestation qui est assez évidente. Il y a 20 ans, on n'avait pas besoin de clarifier le ministère féminin. On n'avait pas besoin de clarifier les questions sur l'homosexualité. Aujourd'hui, il y a des mariages homosexuels. C'est pour ça que l'Église doit mettre un récit. Mais il y a 20 ans, on n'en avait pas besoin. Donc ça ne paraissait pas du tout dans le règlement intérieur. Aujourd'hui, on va l'ajouter. Et d'ailleurs, les anciens, on est en discussion, on est en train d'étudier le sujet du ministère féminin. C'est aussi la question, pourquoi on a fait venir Yannick Etier, pour qu'il nous en parle, pour qu'il prépare un petit peu le terrain. Et nous, on étudie les Écritures avec les anciens et on va se positionner, dire « Ok, ben, Seigneur, voilà notre compréhension. Aujourd'hui, on va mettre ces règles dans l'Église pour favoriser l'avancée du royaume, pour faire des disciples et respecter l'Écriture. » Vous voyez, il y a toujours ces deux pensées, être fidèle à la Bible et en même temps être suffisamment souple culturellement pour pouvoir faire avancer l'Évangile. Il y a toujours ces deux éléments qu'il faut mettre en tension. Donc, c'est des questions importantes. Et nous allons, en tant qu'anciens, assumer ce choix. Mais on va essayer de tenir compte de tout cela. D'accord ? Les Écritures, les données culturelles, comment répondre à ces questions et les questions que vous vous posez. D'accord ? Et donc, on va essayer de le clarifier dans un document. Comme ça, au moins pendant un temps, vous aurez une réponse à cette question sur la place, le rôle de la femme, le ministère, le rôle du ministère féminin dans l'Église locale. That is clear ! Très clair apparemment, plus personne parle, je vous ai calmé. Troisième domaine dans lequel Paul assume ses choix, c'est ses choix personnels. On va un peu plus vite ici, verset 22. Il entra dans la synagogue et s'entretint avec les Juifs qui lui demandèrent de rester quelque temps, mais il n'y consentit pas et prit congé d'eux en disant « Il faut absolument que je célèbre la fête prochaine à Jérusalem. Je reviendrai vers vous si Dieu le veut. » D'Éphèse, il fit voile pour débarquer à Césarée. Il monta saluer l'Église, puis il descendit à Antioche. Ici, Paul fait le choix de ne pas rester à Éphèse alors que les gens sur place lui demandent de rester. Je ne sais pas si vous avez réalisé, la plupart du temps, Paul arrive dans une ville, il prêche l'Évangile, il veut rester dans la ville et qu'est-ce qui se passe ? Pouf ! Dégage Paul, on n'a plus besoin de tes services. Paul se fait virer gentiment, des fois il est même exfiltré de la ville, on le voit à une ou deux reprises. Et là, il y a des Éphésiens qui sont là, ils viennent dans la synagogue, ils prêchent l'Évangile. « Ah, on en veut encore, Paul !» Et qu'est-ce que fait Paul ? Il s'en va. Quels sont ses motifs ? C'est perso. Je dois absolument me rendre à Jérusalem pour la fête. J'ai une teuf qui m'attend. Vous voyez ? Paul, on pourrait le prendre comme ça. Hein ? Je dois aller faire la fête à Jérusalem. Paul serait-il opportuniste ? Oui, il est à 200% opportuniste. Mais alors, vous allez voir son opportunisme. J'aimerais vraiment que tous les croyants de mon assemblée soient opportunistes, comme Paul l'est. Ici, il y a du pain béni qui attend l'apôtre Paul. L'apôtre Paul est un évangéliste. Qu'est-ce qui se passe pendant les fêtes religieuses à Jérusalem ? Tous les croyants viennent à Jérusalem de toutes les nations environnantes pour célébrer la fête. Quand on est un évangéliste, qu'est-ce qui se passe ? On a un parterre beaucoup plus large. On va pouvoir annoncer l'évangile à des gens qui vont se convertir et qui vont pouvoir diffuser le message beaucoup plus loin. Vous imaginez ça ? C'est du pain béni. C'est the place to be, Jérusalem, au moment d'une fête. Et c'est ce qui se passe. Paul, il n'a qu'une chose en tête. Il faut absolument que j'aille à Jérusalem parce que je vais pouvoir y prêcher l'évangile, les amis. C'est ça, l'opportunisme bienveillant. Et je pense à un opportunisme spirituel. Donc oui, c'est un choix personnel que fait l'apôtre Paul, mais c'est parce que derrière, il y a une motivation plus grande qui est un choix personnel. Spirituel, pardon. Et je vous rappelle ce texte. « Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. » Afin, pour gagner le plus grand nombre, dans l'objectif de gagner le plus grand nombre. Vous voyez, c'est l'objectif de l'apôtre Paul. Bien sûr, c'est l'objectif de Dieu, mais c'est l'objectif de l'apôtre Paul. Il veut gagner ses compatriotes. Je vous lis juste Romains 9. Quelques versets pour vous montrer la motivation de l'apôtre Paul. Est-ce que nous arriverions à faire ça ? Moi, j'en suis très loin pour les Juifs. Pour les Juifs aussi, mais pour les Suisses. Écoutez bien. Est-ce que vous arrivez à remplacer le mot « juif » ou « israélite » par « helvétique » ou « suisse » ? D'accord ? Parce que vous êtes là, hein ? On est à Genève, on n'est pas à Jérusalem. « Je dis la vérité en Christ, je ne mens pas, ma conscience m'en rend témoignage. » Est-ce que je l'ai mis ici ou pas ? Non. Par le Saint-Esprit, j'ai une grande tristesse et un chagrin continuel dans le cœur, car je souhaiterais être moi-même anathème. Anathème, c'est séparé du Christ, aller en enfer. Hein. Voyez-y, ici, quelque chose de très très fort. Je souhaiterais être séparé du Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont les Israélites. Et après, il va donner tous les avantages des Israélites, mais vous imaginez ça ? Il aime tellement fort qu'il est prêt à donner sa vie pour ses Israélites. Est-ce que vous pensez que juste un petit rituel, si c'est pour les gagner, il va le faire ? Il est prêt à donner sa vie. Vous savez, avant de connaître Damien, je me demandais comment on peut avoir un amour si fort pour une nation ? Discuter avec Damien et avec Stéphanie du peuple Hmong. Eux, ils sont venus se former à Genève pour atteindre leur peuple, leur nation, leur ethnie, les Hmong. Il ne veut faire que ça, Damien. Il sait que pendant un temps, il se forme à Jérusalem, à Genève, et qu'ensuite, il sera envoyé parmi le peuple Hmong. Mais pour le moment, il ronge son frein, mais ça bouillonne en lui, vous voyez. Et je comprends mieux l'amour de Paul pour les Juifs maintenant que je connais Damien. Avec son amour pour le peuple Hmong. Il a vraiment une passion pour son peuple. Et moi, je me dis, mais c'est ce qui nous manque peut-être. Est-ce qu'on est passionné par nos compatriotes qui sont autour de nous ? Alors certes, là, il n'y a pas que des Suisses dans la salle, on est une église internationale, mais quand même, ceux que nous côtoyons au quotidien, ce sont des gens qui vivent à Genève, des Genevois. Est-ce que nous sommes aussi passionnés que l'apôtre Paul pour les Juifs, vis-à-vis de nos compatriotes ? C'est une question que je laisse ouverte parce que moi, j'y réponds à la manière négative. Non, je ne suis pas aussi passionné que ça, je dois l'avouer. Et c'est pour ça qu'on est tiède aussi parfois, parce qu'on manque d'amour quelque part. Et là, on aurait peut-être besoin de faire ce que je vais vous proposer. C'est-à-dire, ça sera le deuxième point, j'ai commencé par le deuxième. Peut-être de jeûner pour ça. De jeûner. Parce que si on a du mal à parler à nos amis, peut-être c'est qu'on a notre cœur qui n'est pas à la bonne place. Jésus a dit clairement, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Est-ce que vous êtes convaincus de ça ? De toute façon, si vous ne l'êtes pas, c'est que vous ne suivez pas la Bible parce que c'est clairement écrit. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si notre cœur est alimenté par l'amour de Dieu, c'est-à-dire que si nous plaçons Christ en priorité, qu'est-ce que Christ va faire ? Il va nous donner son amour. Et il va nous donner un amour pour les perdus, pour les gens qui sont autour de nous. Il va nous donner cet amour. C'est un des commandements, mais il nous donne cette capacité, il nous donne le vouloir et le faire. Et il nous demande d'aimer Dieu en priorité et ensuite notre prochain comme nous-mêmes. Donc vous voyez que si on revient à Dieu, qu'on consacre du temps, qu'on cherche d'abord son royaume et sa justice, il va nous donner tout le reste. Mais on doit se reconsacrer à Dieu. Et une manière de le faire, c'est de jeûner. Ce n'est pas pour tordre le bras de Dieu, les amis. Non, c'est pour me recentrer sur lui parce que je vois que je suis défaillant dans ce domaine-là. Il y a peut-être plein d'autres domaines où tu es défaillant. Regarde où sont tes priorités. Si tu veux assumer tes choix, regarde où sont tes priorités. C'est très facile aujourd'hui de regarder où sont nos priorités. Vous voulez que je vous donne un moyen de savoir où sont vos priorités ? Abstenez-vous 24 heures d'une chose que vous pratiquez tous les jours et vous allez voir si vous êtes accro. Vous allez voir si c'est une idole. Très vite. Ou alors vous ouvrez votre téléphone et vous allez dans santé électronique, santé numérique. Et vous regardez le temps que vous passez sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur tout ce que vous scrollez au cours d'une journée. Et puis après vous regardez, tiens, Bible, application, Bible Apps, 4 minutes 25. YouTube, 2h48. Instagram, 4h22. Où sont tes priorités ? C'est très facile. Abstiens-toi de ton téléphone 24 heures. Jeûne de cette manière-là. Et qu'est-ce que tu vas faire à la place ? Je ne te demande pas de jeûner pour jeûner, ça n'a aucun intérêt. Jeûne pour te recentrer sur Christ, comme le vœu de Naziréa quelque part. C'est se priver de quelque chose pour retrouver le goût de cette chose. Et pour ne pas considérer cette bénédiction que je reçois quotidiennement, la nourriture par exemple, comme un dû, comme quelque chose de normal. Non, ce n'est pas normal. C'est une grâce que Dieu te fait. Et donc quand on se prive d'un aliment pendant 24 heures, ou même si tu te prives d'un repas, un seul, eh bien tu vas prendre conscience à la fin, au bout de quelques heures, que quand ça gargouille dans ton ventre, tu commences à avoir les crocs. Ah ouais, c'est quand même pas rien d'avoir 3 repas par jour. Puis si tu discutes avec un ami qui est en Afrique, qui lui en a un seul repas par jour, tu vas dire « Ah waouh, je suis vraiment un privilégié ». Et ça va te permettre de te mettre dans ses baskets plus facilement. Et donc de prier pour lui et de l'aimer. Voyez, c'est tout un cycle quelque part. Mais ça part de notre concentration sur la personne de Christ. Donc si on jeûne, les amis, si vous jeûnez, ce n'est pas pour tordre le bras de Dieu. Ce n'est pas pour voir un miracle. Regarde Jésus, et il va prêcher là-dessus, Damien, dans pas longtemps. Quand Jésus est dans le désert, il a jeûné pendant 40 jours, et on se dit, ah, le jeûne, c'est pour voir un miracle. Ah bon ? Quelle est la première chose que veut faire le diable ? Regarde, il y a des pierres transformées en pain. Est-ce que Jésus est capable de faire ça ? Mais bien sûr qu'il est capable. Qu'est-ce qu'il va faire ? Est-ce qu'il va transformer ? Est-ce qu'il y a du miraculeux ? Non, non, non. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voilà ce que dont tu as besoin réellement. Et voilà à quoi doit te conduire le jeûne, c'est à te recentrer sur Dieu et sa parole. Ce n'est pas une manière de tordre le bras de Dieu. Et ça n'a jamais été le cas. Je ne sais pas si vous venez de certains milieux où on jeûne et on s'afflige des choses pour que Dieu infléchisse le cœur des incroyants. La prière, oui, mes amis, ça c'est une arme efficace. Jacques 5 nous le dit clairement. La prière du juste, pourquoi ? Parce qu'elle est adressée à qui cette prière ? Encore une fois, elle est centrée sur Dieu. Pas sur nous-mêmes. Juste avant, il dénonce qu'on n'obtient pas de réponse à nos prières parce qu'on prie de manière égoïste. Non. Remets ces choses à Dieu et tu verras, ça va changer les choses. Donc, une des choses que vous pouvez vous abstenir cette semaine, peut-être, c'est votre téléphone. Essayez. Peut-être c'est le café. D'autres, ça va être le chocolat, les chips, le saucisson. Les boutiques de chaussures, j'en sais rien. En fait, on est tous différents, on a tous des domaines de tentation et d'addiction différents. D'accord ? Donc c'est à vous de définir en disant « Ah ouais, là, ce matin, le Saint-Esprit m'a titillé ici. » Peut-être que vous êtes sur votre chaise en train de trembler, là. Peut-être que le Seigneur est en train de te parler, clairement. Tiens, ah, là, j'ai mis le doigt sur une addiction. Ça peut être le sucre aussi. Hein. J'ai oublié du sucre, parce que le sucre, c'est une drogue. C'est aujourd'hui une drogue autorisée, mais c'en est une réelle pour toi. En fait, on va dans un domaine où on se réfugie. À la place d'aller vers Dieu, on se réfugie là-dedans. Je pense à des séries télé, parce que moi, j'y suis confronté. Vous savez, on travaille dur tout au long de la journée avec mon épouse. On finit souvent tard, 20h, 21h, 22h, 23h. On a des réunions et donc j'arrive à la maison, je suis fatigué. Mon réflexe, c'est pas de plonger dans ma Bible, c'est d'aller sur une série et de me vider la tête. Un peu de chewing-gum pour mon cerveau, ça fait pas de mal. Sauf que j'ai remarqué que je deviens un peu addict. Il y a quoi après ? Vous voyez ? On est tenté. Et donc c'est ça en fait le jeûne. C'est de te dire, ok, si c'est là que je me réfugie et si ça remplace Dieu, là il y a un problème. Et donc le jeûne, le fait de s'abstenir de cette chose pendant un temps, va te permettre de déceler si c'est vraiment un problème ou pas. D'accord ? Si ça l'est pas, alléluia. Tout n'est pas mauvais, hein ? Les séries télé, j'en regarde, je peux vous le dire, je regarde SWAT, pas Swatch, SWAT, le SWAT. Ben bref, les jeunes y connaissent. Assume tes choix devant Dieu, ça c'est la deuxième application, et il me semble qu'ici on a de la matière. En fait, vous avez vu, l'apôtre Paul, il a assumé à chaque fois ses choix, quelles que soient les circonstances. Choix culturel, choix spirituel et choix personnel. Mais dans tous ces domaines-là, il avait des raisons derrière. Il avait des raisons spirituelles. Il avait des bonnes raisons pour faire ses choix. Parfois, vous allez voir des gens qui pratiquent des choses un peu bizarres. Vous en avez eu dans les églises. Ne jugez pas trop vite. Parce que si on avait regardé l'apôtre Paul en disant « Waouh, il s'est fait raser la tête, il est encore sous l'ancienne alliance, l'apôtre Paul. » Là, tu juges un peu vite, mon ami. Hein ? J'ai passé 45 minutes à essayer de montrer que c'était pas ça. Donc, attention au jugement trop hâtif. Quand on voit quelqu'un faire quelque chose, il a de bonnes raisons. En tout cas, j'espère. Donc appliquez ces filtres, mes amis. Si vous faites un choix culturel, si c'est de la nourriture ou un comportement, lorsque vous êtes avec une communauté, si vous avez des amis juifs ou musulmans, ne mangez pas de porc, ne brandissez pas la carte du Fils de Dieu, vous allez fermer la porte directe. D'accord ? Il y a des mots à ne pas prononcer, il y a des choses à ne pas faire culturellement. Et ça, c'est de l'amour, tout simplement. Quand on aime nos amis, on sait ce qu'il ne faut pas qu'on dise et ce qu'il faut qu'on fasse. D'accord ? Donc on va avoir cette subtilité, mais après, on leur parlera de Jésus, même si ça les dérange. Même si ça les dérange. Quoi qu'il en soit, on doit s'adapter. Vous savez, la semaine dernière, j'ai un ami que j'ai invité et je me réjouis de passer ce temps avec lui. Et on a une petite habitude, ce n'est pas une addiction, on se voit deux fois par an. Et on aime le bon vieux rhum. Le vieux rhum, d'accord ? Et je lui dis, écoute, on m'a offert une bouteille de vieux rhum à Noël et ça serait génial si on le dégustait ensemble. Moi, je ne bois plus d'alcool, mais ça, c'est à cause de ma maladie du foie. Mais un petit rhum de temps en temps, un fond de shot, vous voyez, c'est une gorgée, ça me fait plaisir. Et donc, je me dis, je me réjouis trop de pouvoir passer ce temps. Il me dit, Franck, j'ai fait un vœu pendant une année de m'abstenir de ça. À votre avis, c'est un pasteur, hein, un cher frère. À votre avis, est-ce que je lui ai dit, ça y est, t'es tombé dans le légalisme ? Mais t'es libre, tu peux boire du rhum. Ben bien sûr qu'il est libre. Il a fait un choix. Il a fait un choix. Peut-être qu'il a même fait ce choix, pas en ayant écouté ce message parce qu'il ne l'avait pas entendu, mais il s'est peut-être dit, tiens, là, il y a un domaine, il faut que je fasse attention, vous voyez. Et du coup, je ne vais pas le juger parce qu'il ne fait pas comme moi ou parce qu'il n'a plus cette liberté pendant un temps. Mais vous voyez, il s'est pas engagé pour toute la vie, donc la bouteille, je vais la garder de côté et on aura. Je ne veux pas la boire. Hein. Ne vous inquiétez pas pour moi. Je ne suis pas addict à ça. De toute façon, j'ai des gens qui m'observent. On a tellement souvent du monde à la maison, ça serait difficile d'être alcoolique chez nous. ça se verrait très vite. Donc, vous voyez, ce sont des domaines où on peut se priver volontairement, mais qui sont... Il a ses raisons, et je n'ai pas besoin de les connaître. D'accord ? Donc, je pense que ça doit nous être utile. Peut-être que vous devez vous abstenir, vous aussi, mais vous devez surtout assumer ce choix. Que ce soit un choix culturel, que ce soit un choix spirituel, ou que ce soit un choix personnel. Vous pouvez partir en vacances. Vous pouvez prendre le bateau, l'avion. Mais dites-vous une chose, c'est que vous restez chrétien, que vous restez en mission. Et que vous avez la même mission que l'apôtre Paul, c'est de faire des disciples, comme nous l'avons tous ici dans cette salle. Et que même si vous êtes de l'autre bout de la planète, les gens, ils ont aussi besoin de l'évangile, même quand tu es en vacances. Et si tu en as l'opportunité, saisis-la. Fais comme l'apôtre Paul.